RFJ, il est 12h15. Le journal avec vous, Léandre Béret.
Bonjour, les notes de piano emplissent à nouveau l'atmosphère de la collégiale. La 18e édition du Festival international piano à Saint-Ursanne s'ouvre ce soir dans le cloître après une année de pause pandémique. Le directeur du festival, Vincent Baume, sera en direct dans le journal. Les joueurs du HC Ajoie vont mouiller leur nouveau maillot d'entraînement pour commencer. Les hockeyeurs jurassiens ont retrouvé la glace aujourd'hui pour préparer cette nouvelle aventure en National League. Nous serons en direct de la patinoire à Porrentruy dans la page sport. Et un temps copier-coller est prévu pour aujourd'hui et demain, éclairci le matin, puis développement nuageux, averses et orages l'après-midi. Des coups de tonnerre prévus surtout dans les franches montagnes aujourd'hui. Les températures ne dépassent pas 21 degrés. La musique classique va à nouveau résonner au bord du Doubs. Le festival Piano à Saint-Ursanne revient après avoir été annulé en raison de la pandémie l'année passée. La 18e édition de la manifestation musicale commence aujourd'hui et se tiendra jusqu'au 12 août avec 21 concerts au programme. Pour en parler, Caroline Toussaint, vous accueillez le directeur de Piano à Saint-Ursanne.
Vincent Baume, bonjour, merci d'être avec nous. Piano à Saint-Ursanne revit donc après un an de pause forcée. Mais la manifestation revit quelque peu différemment comme beaucoup d'autres cette année. Comment s'organise Piano à Saint-Ursanne en 2021 ?
Bonjour, merci de votre invitation. Pour cette année, un festival réaménagé. Nous sommes très heureux déjà de pouvoir être sur les bords du Doubs cette année. Mais un festival réaménagé, c'est-à-dire une demi-jauge, 160 places au lieu des 320 habituelles. Ensuite, des concerts d'une heure sans entracte. Et une programmation qui tourne avec des artistes proches, suisses ou des pays limitrophes.
Vous avez aussi deux concerts par jour qui sont prévus. Et concrètement, est-ce que le public doit présenter un pass sanitaire ou pas ?
Non. Donc nous nous conformons strictement aux règles fédérales et cantonales. Donc il n'y a pas de pass. Nous avons conservé la demi-jauge pour avoir la distance. Voilà, pour ce qui sont des règles les plus contraignantes.
Toutes ces mesures, est-ce que vous avez l'impression que ça a eu un impact sur les réservations pour le moment ou bien vous constatez un bel engouement du public ?
Pour ce qui nous concerne, les réservations sont tombées en avalanche. Nous sommes très heureux de la billetterie. D'autres festivals, en particulier en France, ont certains problèmes quand je discute avec des collègues. Pour ce qui est de Piano à Saint-Ursanne, tout va bien pour l'heure, notamment le concert d'ouverture ce soir avec Alexei Volodin se joue à guichet fermé.
Après une année d'annulation, justement, cet engouement, ça vous procure quel sentiment ?
Alors nous, un certain bonheur de retrouver les amis artistes, de retrouver la jeune génération des artistes confirmés et surtout un public. Il n'y a pas de concert, il n'y a pas de musique vivante sans un public et un public, pour ce qui nous concerne, fidèle.
Alors, au niveau de la programmation, vous venez de le dire, hein, on a des pianistes aguerris comme Alexei Volodin, mais aussi ces prochains jours, l'invité du festival Vasilis Varvarezos. À côté de ça, Piano à Saint-Ursanne met en avant aussi les jeunes artistes avec un marathon prévu lundi prochain. À quel point c'est important d'offrir une telle variété au public ?
Alors, les contraintes Covid font aussi que les organisateurs doivent trouver des solutions. Donc, comme vous l'avez dit, plus de concerts, avec des concerts parfois à 17h et à 20h30, pour quelque part compenser par rapport à la jauge. Et surtout, un marathon de piano avec des jeunes mis à contribution, avec un marathon qui commence à 13h30 et finit à 22h, avec des cellules de 45 minutes de musique et une pause de 45 minutes, ceci une journée complète.
Donc ça, ce sera aussi l'occasion de mettre en avant des artistes jurassiens, je crois.
Alors, la tribune Jeunes Artistes accueille de nombreux jeunes jurassiens, jurassiennes et des jeunes également de l'arc jurassien. Donc, on privilégie chaque année donc, cette programmation pour donner une place, une visibilité à de jeunes artistes en herbe.
On va aussi préciser que Piano à Saint-Ursanne va jouer les prolongations cette année. Le dernier concert de cette 18e édition, ce sera le 19 décembre prochain. Et ça pourrait presque s'appeler Piano au théâtre, n'est-ce pas ?
Oui, c'est un prolongement naturel, nous semble-t-il. La nuit du concerto, un des piliers de piano à Saint-Ursanne depuis de nombreuses années, est délocalisée dans la saison inaugurale du Théâtre du Jura. Évidemment, nous sommes ravis d'être partenaires du Théâtre du Jura, l'événement culturel jurassien de l'année. Bien entendu, le concert, la nuit du concerto, aura lieu le dimanche 19 décembre à 17h. C'est un peu loin du festival, mais la grande salle ne sera prête qu'à ces dates-là.
Et musique et théâtre, c'est une collaboration évidente ?
C'est une collaboration qui débute. On tirera le bilan après cette première expérience, mais évidemment, la salle est confortable. Elle offre tout ce qu'il y a tout ce qu'on peut attendre d'une belle salle dans le Jura au mois de décembre.
Vincent Baume, directeur de piano à Saint-Ursanne, merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Et merci à vous deux, Piano à Saint-Ursanne qui commence aujourd'hui et se tient jusqu'au 12 août avec donc 21 concerts prévus. Toute la programmation est à retrouver sur rfj.ch. Et c'est une passation de pouvoir sous forme de chaise musicale que va connaître Walter Bi. Le PDC Claude-Alain Chappat a été élu tacitement à la mairie ce midi, puisqu'il est le seul prétendant à s'être manifesté dans les temps. Claude-Alain Chappat siège déjà au conseil communal, il s'occupe des finances. Il succédera donc à Michel Braillet qui a décidé de remettre son mandat au 31 octobre. Vous entendrez le nouveau maire de Walter Bi dans notre journal de 18h. L'approvisionnement devrait être encore compliqué pour les petites et moyennes entreprises suisses. Les économistes de la Raiffeisen estiment ce matin que les goulets d'étranglement et la hausse des prix des matériaux suscite l'inquiétude dans certains secteurs, sans toutefois ébranler la confiance en une reprise durable. L'indice PMI-PME montre que l'activité s'est améliorée ce mois, mais de manière moins prononcée qu'en juin. Des militants pour le climat lèvent le poing à Zurich. Ils étaient 200 ce matin à occuper le siège principal de la banque Crédit Suisse et les bureaux d'UBS à la Parade des Plates. Le mouvement pour le climat dénonce les investissements massifs des institutions financières suisses dans le pétrole, le gaz et le charbon. Les activistes ont mis en place des blocus à l'aide de plusieurs équipements lourds, tels que des trépieds et des barils. La police a procédé à leur évacuation vers 8h30. Et la fête est bel et bien finie sur les hauts du village valaisan d'Arba. Les au moins 500 participants à la rave party illégale qui s'est déroulée dans la nuit de samedi à hier près de Sion étaient pratiquement tous partis ce matin. Le président de la commune a déclaré « Ils ont été corrects et ont rempli leur part du marché. Partir sans confrontation avec la police. Seuls restent quelques véhicules embourbés. »
RFJ, il est 12h22.
Sport. Le HC Ajoie prend son élan sur sa glace avant sa saison de National League. Les hockeyeurs jurassiens se sont retrouvés ce matin à la patinoire à Porrentruy avec de nouveaux maillots d'entraînement et un championnat de niveau supérieur à préparer. La saison qui commence dans un peu plus d'un mois, le 7 septembre, contre Bienne à la Raiffeisen Arena. Michel Léoni, vous avez assisté à ce premier entraînement officiel en habit de National League et vous êtes sur place à Porrentruy.
Oui, on a vu beaucoup de bonheur hein, ce matin sur le visage des joueurs du HC Ajoie. Le bonheur de retrouver la glace, le bonheur aussi d'aborder un nouveau et important défi évidemment avec cette saison qui se profile en National League. L'entraînement qui a été d'ores et déjà exigeant. On a vu des phases de 4 contre 4, des phases de 3 contre 3 aussi. De la fatigue hein, sur les visages après la séance proposée par Gary Sheehan. Il y a 26 joueurs qui ont patiné aujourd'hui à Porrentruy, dont les 6 nouveaux, hein, Rohrbach, Bogdanov, Romanen, Guy Ness et les deux Québécois, Leduc et Asselin, tous étaient là. Donc tous les joueurs qui ont rejoint le HC Ajoie cet été ont patiné aujourd'hui à Porrentruy. Gary Sheehan nous indiquait qu'il attend encore un renfort défensif, un joueur, dit-on, de deuxième ou de troisième ligne, un Suisse bien sûr, et puis Gary Sheehan qui attend surtout un gardien, un deuxième gardien. La piste la plus chaude mène toujours à Robert Mayer, le gardien de Davos. D'après nos informations, Ajoie a même fait une proposition pour obtenir le portier en prêt. Gary Sheehan qui nous a aussi indiqué que la préparation allait être relativement rapide, qu'on allait vite monter dans les tours, vite aussi commencer à travailler des systèmes de jeu. Gary Sheehan qui a souligné qu'il allait proposer du travail fort physique, notamment dans les bandes, hein, avec beaucoup d'intensité. Et le HC Ajoie, donc, on l'a dit, qui a un bon mois pour préparer la saison National League. Son premier rendez-vous en compétition avec un match amical, ce sera pour le 10 août avec la réception des Allemands de Bietigheim.
Merci Michel, et vous nous proposerez d'ailleurs un reportage de ce premier entraînement officiel du HC Ajoie aux couleurs de National League. Ce sera à 18h dans le journal. Le HCA qui commencera sa saison de National League le 7 septembre contre Bienne à Porrentruy.
Le journal des... des Jeux Olympiques de Tokyo avec les 10 ans de garantie de la gamme Toyota, hybride, hybride plug-in ou nouvelle Yaris, élue voiture de l'année. Votre concessionnaire Toyota au Jura, le garage Saint-Christophe à Develier, ouvert tout l'été.
Mujinga Kambuji va lutter pour une place en finale du 200 mètres d'ici quelques minutes. La sprinteuse bernoise sera engagée dès 12h39 heure suisse lors des demi-finales. Ce matin, elle a égalé son record national de 22 secondes 26 lors de sa série qualificative qu'elle a remportée à Tokyo. Elle a même coupé son effort à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Après sa sixième place sur 100 mètres, Mujinga Kambuji en a donc encore dans les jambes et montre qu'il faut compter avec elle aussi sur le demi-tour de piste.
C'est un grand plaisir. Je vois aussi que les autres nations, ils voient qu'on court vite en Suisse et puis c'est intéressant pour eux aussi, alors c'est vraiment très sympa. J'étais un peu fatiguée, je dois dire. C'est pour ça que mon but, c'était vraiment de passer les séries avec le moins d'énergie possible. Je crois que l'accélération n'était pas optimale. Après, je crois que j'ai fait un bon virage, je n'étais pas crispée. À la sortie du virage, je pensais que l'Américaine va venir, mais les fois, j'ai fini la course. À la fin, j'ai même encore un petit peu regardé à côté. J'ai vu que j'étais devant, alors j'ai relâché. Peut-être que j'aurais pas dû, mais je ne pensais pas que ça allait être un chrono comme ça. J'ai dans mon corps, il faut juste que je me tire la pluie ce soir.
Des propos recueillis par la RTS, Mujinga Kambuji a réalisé le quatrième temps des séries. À noter l'élimination surprise de Sherika Jackson, médaillée de bronze sur 100 mètres et troisième performeuse mondiale de l'année. De son côté, Léa Sprunger revient aujourd'hui dans le stade olympique de Tokyo pour les demi-finales du 400 mètres haies, qui s'annonce d'ailleurs serré. La vaudoise devra sans doute se rapprocher de son record national pour parvenir en finale. Ces JO sont son dernier grand rendez-vous, elle qui prendra sa retraite à la fin de la saison.
Moi, je le vis bien parce que c'est une décision que j'ai jamais remis en cause, en fait. C'est une décision avec laquelle je suis en accord total et en fait, je le vois assez positivement où chaque chose que je fais maintenant, je le fais avec peut-être encore plus d'envie, plus d'émotion. Et ouais, ça rend en fait chaque journée très spéciale parce que c'est entre guillemets pour la dernière fois. Donc j'essaie vraiment de aussi tirer un avantage de ça sur la compétition qui arrive.
Léa Sprunger sera alignée dans la troisième des demi-finales. Ce sera 13h55 heure suisse. Steve Gerda est lui aligné en simple et en équipe en saut d'obstacle. Sans surprise, le cavalier jurassien et son cheval Venard de Sérisy ont été sélectionnés pour les deux concours par le chef d'équipe Michel Sorg. Il sera accompagné en individuel par Martin Fuchs et Beat Mendley. Le concours commence demain et dans l'épreuve par équipe, c'est le Neuchâtelois Brian Balsiger et sa jument 22 des Biches qui ont été choisis au détriment de Beat Mendley. La Suisse qui a déçu lors des qualifications de la poursuite par équipe, Robin Froidevaux, Cyril Thierry, Mauro Schmidt et Stéphane Bisseger ont terminé 8e et dernier de ces qualifications en 3 minutes 51 secondes. L'équipe cycliste suisse ne peut plus désormais que viser le bronze demain. Elle aurait dû figurer parmi les 4 premiers pour avoir le droit de se battre pour la médaille d'or. Et le chinois Liu Yang a remporté haut la main la finale des anneaux au JO de Tokyo. Il a devancé son compatriote Yuao et le tenant du titre, le grec Eleftherios Petrounias. Liu Yang offre ainsi sa première médaille d'or à la Chine dans les épreuves de gymnastique et finit loin devant avec 15,500 points dans une finale très relevée. Et les Jeux Olympiques ont commencé il y a 10 jours à Tokyo. Sur place, les contraintes sanitaires sont bel et bien présentes pour les professionnels qui tentent de faire vivre cet événement au plus grand nombre, notamment à travers les médias. Elles sont notamment d'ordre artistique pour Laurent Gilieron, photographe de l'agence Keystone ATS, qui couvre ses 6e Jeux Olympiques.
L'absence de public, moi je trouve qu'il y a quand même moins d'émotion dans le stade. Ouais, entre les athlètes, et ben, le public n'est pas là. Du coup, il n'y a pas d'échange, je trouve. Ça, c'est un peu moins présent. Par contre, on ressent quand même sur les podiums et tout de l'émotion qui est peut-être plus triste, donc de l'émotion avec des larmes, qu'une explosion de joie liée à du public. Donc c'est un peu ambivalent comme ça.
Puis sans public, c'est aussi plus difficile de faire une photo propre.
Alors là aussi, il y a deux points. En fait, un des bons points, c'est qu'on peut à peu près aller s'asseoir partout. Hein. Normalement, dans chaque stade, il y a des positions photographes. Et là, on a le droit d'utiliser des sièges vides, presque tous, où il n'y a pas de public. Donc ça, ça permet d'avoir des autres angles un peu. Ça, c'est le point positif. Et le point négatif, c'est ben, le fond de l'image. Le fond de l'image, souvent, ben, aux Jeux Olympiques, c'est très propre, avec juste les anneaux olympiques et puis peut-être Tokyo 2020 ou comme ça. Et du public, avec souvent plein de drapeaux, plein de couleurs. Ben, là, il n'y a pas. Là, c'est des sièges bleus, vides. C'est drôle, entre guillemets, on photographie une fois. Mais au bout de 10 jours, c'est un bon challenge d'enlever ça, en fait.
C'était un dossier de notre envoyé spécial à Tokyo, Émilie Mumenthaler. Et je vous souhaite une très bonne journée.
Le journal des Jeux Olympiques de Tokyo avec le garage Saint-Christophe à Develier et la nouvelle Mustang Mach-E, premier SUV 100% électrique de Ford, ouvert tout l'été.
Et tout de suite, un coup d'œil sur la météo. Bon, une météo qui n'est pas précisément estivale, hein, on ne peut pas dire. Le temps est assez partagé. Il y a eu quelques épisodes de soleil ce matin, mais là, c'est de nouveau la grisaille. Des bancs de nuages relativement étendus. Attention, cet après-midi, sur les franches montagnes, il peut y avoir des épisodes non seulement d'averses, mais en plus de coups de tonnerre et d'orages. Et ça peut même déborder jusqu'en plaine. Les températures jusqu'à 19 à 21 degrés, jusqu'à 17 degrés. À 1000 mètres d'altitude. Demain, temps encore en partie ensoleillé au début, puis un ciel de plus en plus nuageux, quelques averses parfois orageuses. Dans l'après-midi, les températures demain jusqu'à 15 à 17 degrés vers 1000 mètres d'altitude. Mercredi, le temps sera plutôt nuageux le matin. Quelques pluies, puis passage à un ciel de traîne dans l'après-midi avec le développement de quelques éclaircies, mais un risque d'averse qui reste présent. C'est d'ici la fin de la semaine, vendredi, qu'on peut avoir quelques épisodes de soleil, mais attention, samedi, ça peut de nouveau se gâcher un tout petit peu. Vous allez noter dans votre mémoire, hein, l'été 2021.